Radio Campus Lille, 7h. Tous les matins, retrouvez la matinale de Radio Campus, préparée et animée par les étudiants de l'Académie ESJ.
Bonjour tout le monde, vous êtes sur Radio Campus 106.6. Ça bouge pas. Je suis Zadig Marville, votre animateur du morning présenté par les élèves de l'Académie ESJ Lille. L'émission d'aujourd'hui sera animée par un casting exclusivement féminin. Lisa Deschaux à la régie, c'est elle qui a choisi les musiques de l'émission, donc si vous aimez pas, c'est totalement à elle qu'il faut se plaindre. Angèle Baguet, coproductrice de l'émission Talk Terrasse, bien sûr, qui est au Flash Info. Abigail à la revue de presse. Lison Fleury s'occupera du micro-trottoir. Lucie va vous proposer un énorme interview de 12 minutes. Et Eva fera un billet d'humeur. Et enfin, Emma Lauré, ultra polyvalente, qui s'est occupée de absolument tout dans cette émission. Vraiment, elle se démène. Réalisation, conducteur, agenda culturel et reportage. Vraiment beaucoup trop de rôles dans une émission, dans une matinale. Enfin bref, maintenant que je vous ai présenté les membres de l'émission, on part tout de suite avec Angèle Baguet et son Flash Info. Angèle, c'est parti.
C'est le Flash Info.
Bonjour à tous, bonjour Zadig et bienvenue dans le Flash Info de l'Académie ESJ. Pour commencer, quelques informations sur la situation à Gaza. Des blindés israéliens ont débarqué dans le sud de l'enclave lundi matin alors que des bombardements faisaient trembler et font toujours trembler la ville de Khan Younes, refuge de nombreux civils au sud et potentiellement celui des dirigeants politiques et militaires du Hamas. Les civils réfugiés se demandaient alors où ils pouvaient désormais se rendre alors que certains avaient déjà fui leur précédent refuge à plusieurs reprises et que des tracts militaires israéliens les invitant à évacuer étaient distribués. Aussi, le porte-parole du département d'État américain Matthew Miller estimait le même jour que la reconduite de la trêve à Gaza avait échoué en partie car le Hamas aurait refusé de libérer une partie des femmes retenues otages afin de les empêcher de témoigner des potentielles violences sexuelles subies lors de leur captivité. En effet, un accord négocié sous l'égide du Qatar et des États-Unis prévoyait la libération des otages, majoritairement mineurs, mères de famille et femmes âgées, enlevées par le Hamas lors de l'attaque du 7 octobre. Seulement les autorités israéliennes ont déclaré que 19 civils, dont une mineure, ainsi que 5 femmes militaires, étaient toujours retenues en captivité. En France, le même jour, l'Assemblée nationale adoptait un texte à l'unanimité en première lecture visant à interdire les cigarettes électroniques aromatisées, aussi appelées puffs, très prisées chez les jeunes. Une interdiction avait déjà été réclamée par la première ministre Elisabeth Borne en septembre, qui a donc bien évidemment appuyé le texte, signé par 166 députés. Ce texte, motivé par une inquiétude pour la santé des jeunes, consommateurs principaux de ces cigarettes électroniques, à cause de leur taux en nicotine compris entre 0 et 20 mg par millilitre, doit maintenant être voté par le Sénat. Le rapport du PISA de 2022 de l'OCDE publié hier sur le niveau des élèves de 15 ans révèle une chute importante dans les disciplines des mathématiques, de la compréhension de l'écrit et des sciences en France. En effet, les résultats de 2022 s'avèrent être parmi les plus bas jamais mesurés, avec un classement entre la 15e et la 29e place en mathématiques et entre la 11e et la 29e place en compréhension de l'écrit et en sciences. Le soutien des professeurs envers leurs élèves est le principal mis en cause, ainsi que le déclin de l'intérêt porté par les parents au suivi des progrès de leurs enfants, qui est également pointé du doigt. L'enquête révèle aussi que la France reste championne des inégalités avec un lien fort entre le statut socio-économique des élèves et la performance obtenue au PISA. Ces résultats ont mené à des résolutions annoncées par Gabriel Attal, se manifestant notamment par un redoublement décidé par les enseignants, des groupes de niveau au sein des classes de collège pour les cours de français et de mathématiques, ainsi qu'une réforme du brevet qui deviendra obligatoire pour l'accès au lycée à partir de la session 2025. Et enfin, quelques informations sur la COP28, où la présence des lobbyistes a été très remarquée hier, avec près de 2500 lobbyistes des énergies fossiles ayant obtenu une accréditation, un record pour une conférence sur le climat qui a été déplorée par une coalition de 450 ONG dont Global Witness, Greenpeace et Transparency font partie et qui affirme par ailleurs que la liste constituée uniquement sur des données publiques doit en omettre certains. Merci beaucoup à tous de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très bonne fin de matinée.
Ok, bah merci beaucoup Angèle pour ce flash info avec des infos super négatives, vraiment. Guerre israélo-palestinienne, on est nul en maths, vraiment c'est... Bon bref, une journée bien chargée en tout cas, et on s'arrête pas. Et oui, l'information continue sur Radio Campus 106.6 puisque on va s'écouter la revue de presse de Abigail. Enfin bref, c'est parti.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la revue de presse du mercredi 6 décembre. Aujourd'hui, nous allons parler environnement, enquête et éducation. On commence avec la COP28 qui a débuté le jeudi 30 novembre. Elle a pour objectif de discuter des possibles négociations sur le changement climatique. Les COP font en général pas beaucoup de bruit dans les médias, mais cette année, on en entend un peu plus parler. Comme le rappelle France Info, le choix du pays et du président sont contestés. En effet, la COP a lieu à Dubaï, une ville qui est située dans le 4e pays le plus pollueur du monde. De plus, le président est le sultan Ahmed Al-Jaber, qui est le ministre de l'Industrie et des Technologies des Émirats Arabes Unis, mais surtout le PDG du groupe ADNOC, un groupe pétrolier. Néanmoins, il est aussi le président de Masdar, une ville verte nouvelle qui est en construction depuis 2008. Cet homme a de multiples casquettes. Le journal Le Monde explique que la publication d'une vidéo datant de novembre mettant en scène le sultan Al-Jaber remet en question ses engagements. Il explique dans cette vidéo qu'aucune étude ne prouve que la sortie des énergies fossiles permettra d'atteindre les 1,5 degrés fixés par l'accord de Paris en 2015. Sultan Al-Jaber a été défendu par le directeur de la COP, M. Al-Suwaidi, en disant que, je cite, « Sultan Al-Jaber est un praticien, un scientifique et un ingénieur ». Le même article rappelle que la société ADNOC, la société du sultan Al-Jaber, prévoit d'augmenter sa production d'hydrocarbures dans les années à venir, ce qui est donc totalement au contraire des engagements qu'il a pris. La COP28 a été attendue pour trouver des négociations sur les énergies fossiles, sur l'avenir de l'agriculture, mais aussi sur les pertes et dommages. Le jour de l'ouverture de la COP, une décision sur le fonds des pertes et dommages a été adoptée rapidement. Celui-ci aurait pour objectif d'aider les pays du Sud à se relever des conséquences du changement climatique. On poursuit avec une actualité en France cette fois-ci. Samedi, un touriste allemand a été tué près de la Tour Eiffel et deux autres personnes ont été blessées. Le suspect était armé d'un couteau et d'un marteau et il était connu des renseignements et de la justice antiterroriste. De plus, il a déjà passé 4 ans en prison pour un projet d'attaque en 2016 et il présente des troubles psychiatriques. Avant son acte, il a fait allégeance à l'État islamique. Gérald Darmanin a évoqué qu'il y a eu, je cite, « un ratage dans le suivi psychiatrique du suspect ». Dans une interview au Figaro, il explique que 25 à 40% des personnes suivies pour radicalisation sont concernées par des maladies mentales. L'enquête est confiée à la brigade criminelle pour assassinat et tentative d'assassinat. De plus, le parquet fédéral allemand a de même ouvert une enquête. Elle se déroulera parallèlement à l'enquête confiée au parquet national antiterroriste français. Suite à la qualification d'un, je cite, « ratage dans le suivi psychiatrique du suspect », des psychiatres ont dénoncé une attaque grossière contre une profession déjà maltraitée. Le Monde explique que des soins psychiatriques sans consentement sont possibles sur la demande du préfet, si c'est en lien avec un trouble grave pouvant toucher l'ordre public. Pour finir, nous allons parler éducation avec la publication du classement PISA de 2022, qui est le programme international pour le suivi des acquis des élèves. Ce classement évalue le niveau des élèves de 15 ans de l'OCDE en mathématiques, en compréhension de l'écrit et en culture scientifique. Le Monde explique que la France se situe dans la moyenne des pays en ayant obtenu 474 points en mathématiques, en sachant que la moyenne est à 472. Elle a ensuite obtenu 474 points en compréhension de l'écrit, alors que la moyenne se situe à 476 points. Et enfin, elle a obtenu 487 points en culture scientifique, quand la moyenne est à 485. Comparée aux autres pays, elle a des résultats similaires à ceux de l'Allemagne, de l'Espagne et de la Norvège. Les pays asiatiques, eux, sont en tête, avec Singapour en haut du classement pour les mathématiques, la compréhension de l'écrit et la culture scientifique. Le Figaro explique qu'en 2022, 67% des élèves qui étaient scolarisés en collège ou lycée avaient un manque d'enseignants contre 17% en 2018. C'est la proportion qui est la plus élevée dans l'OCDE. Un lien est fait entre le manque de professeurs et les résultats des élèves qui sont en baisse. Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet en annonçant un choc des savoirs. Le ministre s'engage à aider les enseignants. Le journal Le Monde explique que les enseignants pourront, je cite, « recommander, voire prescrire à leurs élèves des stages de réussite durant les vacances scolaires » afin de les aider dans leur passage dans la classe supérieure. De plus, pour aider à la progression des élèves, des groupes de niveau seront créés en français et en mathématiques dès la rentrée de septembre 2024. Enfin, Le Monde explique que Gabriel Attal souhaite utiliser la méthode dite de Singapour pour aider les élèves de l'école primaire en mathématiques. Merci à tous et je vous souhaite une bonne journée.
Ok, Abigail, toujours des informations très négatives, on passe à une super matinale en tout cas. Enfin bref, les auditeurs et auditrices, c'est maintenant l'heure d'une petite interlude musicale. Lisa a choisi Jeune Saint, un verre ou deux, chanson extrêmement mélancolique, totalement pour les lovers, pour les fans de Taïk par exemple. Enfin bref, c'est parti. Fin de musique, bah clairement je suis sous le charme, mais je ravale mes émotions et mes sentiments puisque c'est l'heure du reportage produit par Emma Lauré, ou la personne qui n'a pas dormi de la semaine car elle a fait beaucoup trop de choses dans cette émission. Enfin bref, tout de suite un reportage sur la confiance et l'estime de soi.
Le manque d'estime de soi joue un rôle central dans les difficultés individuelles et sociales qui affectent notre État et notre nation. C'est en 1990 que ces mots ont été employés par l'État de Californie dans le cadre d'un lancement d'un programme de renforcement de l'estime de soi dans sa politique intérieure. Mais pourquoi faire de l'estime de soi une priorité de l'ordre politique et comment le manque d'estime de soi affecterait la nation, ici l'État californien tout entier, de manière concrète? Aujourd'hui, à l'heure où la revalorisation de l'individu devient centrale, notamment avec l'essor du développement personnel, des réseaux sociaux ou encore des slogans que l'on retrouve de plus en plus, comme « deviens le meilleur de toi-même », « booste ta productivité », qu'en est-il vraiment de l'estime de soi? Bref, vous l'aurez compris, l'estime de soi est un concept complexe et fondamental que nous allons tenter de mieux comprendre ce matin. Et pour commencer, j'ai eu la chance de rencontrer Anna Morel, psychologue spécialisée en thérapie cognitivo-comportementale.
Le manque d'estime de soi peut engendrer de la souffrance et des difficultés, qu'elles soient relationnelles, scolaires, professionnelles, etc. Ça peut avoir un impact sur le développement de troubles pathologiques, mais aussi leur maintien dans le temps et le risque de rechuter. On va retrouver un manque d'estime de soi dans les troubles anxieux, dans la dépression, les addictions, ainsi que les troubles du comportement alimentaire, comme l'anorexie et la boulimie. Une faible estime de soi, ça va se manifester à travers des distorsions cognitives, c'est-à-dire des jugements déformés de la réalité. Par exemple, la personne avec une faible estime de soi, elle aura tendance à minimiser ses forces et à maximiser ses faiblesses. Elle va se dire « j'y arriverai jamais, c'était pas si bien ». Elle peut aussi surgénéraliser. Donc « j'ai raté cet examen, je ne réussirai jamais ma licence ». Elle va avoir tendance à créer des fausses obligations, c'est-à-dire qu'elle aura des attentes exigeantes sur comment est-ce qu'elle devrait être, comment est-ce que les choses doivent se passer. Par exemple, je dois être mince, je dois réussir tout ce que j'entreprends. Elle peut aussi s'étiqueter, donc utiliser un qualificatif pour se définir plutôt que pour définir un comportement spécifique. Je suis moche, je suis nulle, je suis bonne à rien. Or, ce type de pensée, donc les distorsions cognitives, ça va avoir pour conséquence d'entretenir une estime de soi faible et ça va un peu agir comme des lunettes qui vont colorer notre vision du monde, notre interprétation de l'environnement. Certains événements sociaux peuvent considérablement abîmer notre estime de soi. C'est le cas par exemple de l'ostracisme, c'est-à-dire l'exclusion sociale, l'isolement social ou le harcèlement scolaire, professionnel. Et de manière plus générale, être jugé négativement pour qui nous sommes ou ne pas être écouté et respecté peut nuire à notre estime de soi. D'autant plus si ça vient de la part de personnes qui ont de l'importance pour nous.
En effet, si quelqu'un me regarde en trouvant que je suis brillant, je deviens plus brillant. Et s'il me voit nul, je deviens davantage nul. En ce sens, c'est 90% des hommes d'affaires qui s'estiment supérieurs à l'homme d'affaires moyen et 70% des élèves de grande école qui pensent avoir des capacités au-dessus de la moyenne. Les paramètres sociaux et l'environnement d'un individu sont donc déterminants pour les outils d'évaluation de l'estime de soi. Dans tous les cas, se positionner par rapport aux autres dans son environnement immédiat représente l'un des mécanismes d'ajustement de l'estime de soi. L'ensemble des études confirme que pour la plupart des individus, il apparaît en effet capital de figurer au-dessus de la moyenne. Entre pression et déconstruction des valeurs individuelles, la classe préparatoire semble être le meilleur exemple pour illustrer cette interdépendance entre la valeur que l'individu se donne et son environnement.
Je m'appelle Manon, j'ai 19 ans et je suis actuellement donc en double licence lettres espagnoles à Lorient. L'année dernière, j'étais en Hippocagne, c'est une prépa lettres. Et l'année encore avant, donc j'étais en terminale dans un lycée de campagne. En fait, quand on arrive, déjà, on comprend rapidement qu'avec un bac mention bien, parce que c'est ce que j'ai eu, on est très vite catégorisé comme étant assez faible, non pas par les autres, mais en fait, on n'a pas besoin des autres pour le ressentir. Tout le monde a eu mention très bien, avec les excellences du jury aussi parfois, enfin les félicitations du jury. Et nous, on est là avec notre pauvre moyenne qui tourne à 14-15, quoi. Et c'est difficile. Donc là, ça a été forcément la douche froide en arrivant en prépa. Je suis passée du groupe de tête au lycée, même si j'étais jamais la meilleure dans mon groupe, à quelqu'un de très très médiocre en prépa. Et ça a été assez difficile. Ce qui est très dur aussi, c'est que lorsqu'on est dans des études très prenantes, on arrête tout ce qui est le sport. Enfin, en tout cas, pour ma part, j'ai pas réussi à continuer le sport, ni la musique, ni à beaucoup sortir. Et donc, on se voit qu'à travers l'image de nos notes, qu'à travers nos capacités intellectuelles. Et ça, c'est très difficile, puisqu'en fait, on se dit, mais je ne sais plus rien faire. Avant, j'étais capable de faire du sport, de faire de la musique, de dessiner, de sortir avec mes amis, de bien réussir en classe. Et maintenant, je me concentre sur une seule et unique chose qui est réussir en classe, et même ça, je n'y arrive pas. Donc vraiment, je suis en train de tout rater. Et ça, c'est assez difficile. Ce qui n'aide pas aussi dans la valorisation de soi, c'est par exemple afficher les tableaux des résultats après les concours blancs et voir qu'on est presque dernière des classements. Ça, forcément, ça aide pas. Après, faut prendre du recul. J'ai toujours essayé de prendre du recul vis-à-vis de ça, vis-à-vis des notes, et mes parents, je pense, m'ont beaucoup aidé. Encore une fois, les notes ne définissent vraiment pas la personne, et j'ai arrêté depuis assez longtemps maintenant de travailler pour mes professeurs, et ça a beaucoup changé quand même. Et donc quand je suis arrivée à la fac, y a une des premières questions, c'était qu'est-ce que la poésie. Et forcément, nous on l'avait fait l'année dernière en prépa, et j'ai sorti quelque chose qui me semblait pas trop débile, avec toujours ce regard de les autres de prépa comme s'ils me regardaient. Et en fait, tout le monde m'a regardée en me disant waouh, mais c'est exactement ça. Et là, je me suis dit, ok, donc en fait, j'ai changé d'environnement, j'ai changé de personne avec qui je suis, mais moi, au milieu de tout ça, qu'est-ce que je deviens? Est-ce que je redeviens une pauvre élève, enfin, une pauvre élève dans un sens figuré, ou est-ce que je fais partie maintenant de la tête? Et après, il y a forcément, je le sens encore aujourd'hui, il y a toujours quelque chose qui m'agace, c'est quand on a fait quelque chose qu'on a déjà vu l'année dernière et que... Pour moi, ça semble entre guillemets assez facile, et donc je dis les réponses, et certaines me disent waouh, mais enfin, comment tu fais? Et j'aime pas du tout en fait cette admiration qu'on pourrait me porter sur des sujets comme ça, parce que c'est pas du tout. Enfin, j'estime pas du tout que ce soit valorisant de savoir ça, c'est juste une connaissance parce qu'on m'a bourré le crâne pendant un an. Et donc je ressens pas du tout une fierté cette année d'avoir plus de connaissances sur certains sujets que d'autres. Pas du tout, au contraire. Encore une fois, c'est vraiment très différent.
Lorsque l'on prend conscience de l'impact de son environnement sur le regard que l'on se porte, on peut alors chercher à se détacher de cette valorisation que l'on cherche à tout prix à travers les autres. Ainsi, malgré un air légèrement stoïcien, la clé d'une bonne estime de soi résiderait dans le fait de ne pas dépendre des autres, mais bien de devenir son propre regard valorisateur. Alors ce reportage vous paraîtra sûrement un peu décalé, mais j'espère qu'il vous aura fait prendre conscience du pouvoir que vous avez à influencer vos propres comportements et le regard que vous portez chaque jour, parce que vous valez sûrement bien plus que ce dont vous ne le pensez.
Ah, vraiment, je suis bouche bée. Super reportage sur la confiance en soi. Vraiment, félicitations Emma. Bon, bref, après cette impressionnante production, voilà, digne des plus grands reporters, on passe désormais à Lison Fleury et au micro-trottoir sur le rapport que l'on entretient avec la musique.
Parce que votre voix, vos histoires, votre avis comptent pour nous, voici le micro-trottoir de Radio Campus.
Que ce soit dans la rue, dans le métro, en soirée ou sous la douche, Il changeait la vie de Jean-Jacques Goldman tourne en boucle dans mes oreilles. Et j'y peux rien, dès que j'entends les premières notes de musique, ma tête bouge toute seule et mon sourire monte jusqu'aux oreilles. Pour moi, c'est ça la musique. C'est de l'énergie que tu transmets aux gens, que les gens te transmettent en retour. Et pour vous alors, c'est quoi la musique? Qu'est-ce que ça vous évoque?
Bonjour, je m'appelle Morgane, j'ai 29 ans, je suis martiniquaise, je suis de passage sur l'île.
Bonjour, je m'appelle Chloé, j'ai 34 ans et je vis à Lille.
Alors je suis Tanguy, je suis militaire dans la vie.
Je m'appelle Hugo, je viens de Bordeaux et je suis venu là à Lille pour voir un pote et je repars dans une heure.
Bonjour, je m'appelle Héloïse, j'ai 19 ans et voilà.
Quelle est la chanson ou l'artiste qui vous évoque le plus de souvenirs?
L'artiste qui m'évoque le plus de souvenirs, c'est Izzy Kenenga, il est de Martinique. Et la chanson, il y en a tellement, je dirais Truc de fou.
C'est le groupe Queen, c'est Bohemian Rhapsody parce que c'est une musique que j'écoutais avec mon papa dans la voiture le matin en allant à l'école.
Oh, le plus de souvenirs. Alors, c'est un peu précis. C'est de Pride Syntax.
Wow. Ah ouais. La techno, ça résume un petit peu mes soirées. Toutes les musiques à l'ancienne, genre années 80, ça rappelle l'enfance, les soirées camping et tout ça.
L'artiste.
Fais-moi une place de Julien Clerc.
Et qu'est-ce que la musique vous apporte au quotidien ?
Au quotidien, la musique, ça m'apaise. C'est vraiment ma passion pour le coup. J'ai fait du piano pendant un peu plus de 10 ans. Et disons que c'est grâce à la musique que j'ai réussi à me construire en tant que personne. Donc voilà.
Alors ça m'apporte plein de choses. Ça peut m'apporter de la détente, ça peut m'apporter des émotions. Voilà, j'écoute la musique le matin, le midi et le soir en fonction de mon humeur. J'adapte la playlist.
Aussi une bonne façon de se sortir de la réalité qui des fois n'est pas la plus belle non plus. Donc ça aide surtout à évacuer beaucoup de pensées négatives plus qu'autre chose.
J'aime bien aussi parce que du coup des fois t'écoutes de la musique et genre les gens ils bougent autour de toi mais toi t'es trop dans une ambiance différente. À chaque fois tu rencontres des gens qui écoutent grave des styles différents, tu découvres grave des choses à travers la musique avec les gens. Il y en a qui vont écouter du classique, du reggae, enfin, ça en dit long sur la personnalité des gens et c'est grave cool.
Ça me fait beaucoup réfléchir par rapport aux autres parce que on n'a pas toujours le bon comportement vis-à-vis des autres et les autres n'ont pas toujours le bon comportement. Et du coup, il y a certaines musiques qui les évoquent et qui nous permettent d'accepter mieux certaines situations et de mieux les appréhender.
Et ce que m'apporte la musique, ça va dépendre des moments. On va dire que je peux avoir besoin de détente ou de sortir du quotidien. Je peux avoir besoin d'être, de pousser un peu pour me mettre dans un mood plus rythmé, on va dire, ou voilà, de m'évader.
Et dans vos relations humaines, vos relations avec les gens, qu'est-ce que la musique ça vous apporte ?
On va beaucoup se moquer de moi justement parce que j'ai une playlist très éclectique. Moi j'écoute beaucoup de styles de musique différents. Ça peut aller de Diams à Mozart. Donc vraiment, on ne laisse pas mon portable seul branché à une enceinte parce que sinon ça va brutalement changer de style.
Ouais. Ce qui est bien, c'est que la musique c'est un bon moyen de se connecter avec les gens aussi parce que du coup il y a beaucoup de gens qui aiment les mêmes groupes, qui ont les mêmes goûts musicaux. Donc ça apporte beaucoup de relations sociales sur les discussions surtout.
Et si vous deviez décrire vos goûts musicaux en trois mots, lesquels choisirez-vous ?
Trois mots, c'est dur ça ! Je dirais zouk.
Variés.
Spéciaux.
Rythmé. Fantasque.
Éclectique.
Et assez large.
Pop, variété française.
Compliqué.
Et de mauvais goût.
Merci à toutes et à tous d'avoir répondu à mes questions. Vous voilà maintenant informés sur ce que la musique apporte aux gens. Ou du moins ce que la musique apporte aux gens attendant patiemment leur train à la gare de l'Île-Flandre. Et comme dirait Philibert Joseph Leroux, tous les goûts sont dans la nature. Alors maintenant, je vous souhaite apprécier la musique et je vous souhaite une bonne journée.
Et super micro-trottoir sur la musique. Et d'ailleurs, en parlant de musique, c'est l'heure d'une autre interlude musicale, Didn't Show Now de Erika Badu. Un son bien calme, mais surtout bien bien old school, puisqu'il est sorti en 2000. C'est parti. Thank you. Ok, ok, maintenant, on va s'écouter l'interview de Lucie. Très longue interview de 12 minutes. On parle de Proxité, une association de mentorat qui aide les jeunes dans leur orientation scolaire. C'est parti.
3. Le mentorat a obtenu le label Grande Cause Nationale car il a été officiellement considéré comme un levier d'émancipation professionnelle de tous les jeunes de France. Mais en pratique, qu'est-ce que le mentorat ? En quoi peut-il aider des jeunes à s'orienter professionnellement ou scolairement parlant ? Alice Aknoun, membre lillois de l'association de mentorat Proxité, a bien voulu répondre à nos questions. L'association pour laquelle il travaille, Proxité, a été créée en 2002 et son objectif est de mettre en relation des bénévoles actifs dans le milieu professionnel avec des jeunes ayant des difficultés aussi bien scolaires qu'en lien avec l'orientation. Il a ainsi accepté de nous recevoir dans les locaux de l'association afin de nous raconter comment le mentorat peut, selon son expérience, contribuer à l'aide à l'orientation chez les jeunes.
Pour commencer, tout simplement, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît ?
Alors moi, du coup, je m'appelle Alice Aknoun, je travaille chez Proxité maintenant depuis à peu près 2 ans et demi. Sinon, avant ça, j'ai travaillé pendant 1 an pour l'Université de Lille, au sein de la direction vie étudiante, au bureau de la vie étudiante et du handicap sur le campus Cité Scientifique. Et avant ça, j'ai travaillé pour une association qui s'appelle le Mouvement Associatif, en Hauts-de-France.
En quelques mots, qu'est-ce que Proxité ?
Proxité, c'est une association de mentorat. Le but du mentorat est de pouvoir proposer à des jeunes qui ont des besoins, gravitant autour de la scolarité, de l'insertion professionnelle, de l'orientation, de la découverte de soi, entre autres, de pouvoir être accompagné de manière individuelle et personnalisée par un ou une bénévole. Et nous, Proxité, notre angle d'attaque, c'est que nos bénévoles sont uniquement des personnes actives dans le monde du travail. Deuxième spécificité, c'est que l'on accueille les binômes de parrainage ou de mentorat au sein de locaux qui sont vraiment fixes au cœur des quartiers. Le but est de pouvoir, en fait, au sein des quartiers, avoir des lieux d'accueil pour que les jeunes puissent ne pas avoir des temps de trajet ultra longs, ce qui leur permet voilà, d'arriver dans le quartier, de venir sur ce lieu-là, rencontrer leur mentor, travailler, et le tout accueilli et accompagné par des salariés de l'association. En parallèle également, la deuxième phase de la même pièce, c'est des temps dits collectifs. Ce qu'on entend par là, en fait, c'est une sensibilisation au monde du travail. Et donc, en fait, on invite des groupes de jeunes à venir découvrir des métiers. Et le but, c'est de créer des sensibilités, des appétences, voire même parfois de déconstruire des fantasmes.
Qu'est-ce qui, toi, t'a poussé à rejoindre cette association-là ?
Ça a été d'abord un effet d'opportunité, parce que on m'a envoyé l'offre d'emploi. Je me suis dit, ah tiens, ça a l'air chouette, je connaissais pas vraiment le mentorat. Et j'ai vu que la personne qui recrutait était une personne que je connaissais d'une autre vie professionnelle, qui est maintenant ma N+1. Et donc, je me suis dit, ah, ça pourrait être chouette de bosser avec elle. Puis, j'ai commencé à m'intéresser plus au sujet mentorat et proposer un outil d'accompagnement à des jeunes qui ont des difficultés pour ne pas rester seuls face à leurs difficultés. Ça faisait sens pour moi, parce que voilà, j'ai aussi un parcours qui fait que j'ai été ces jeunes-là avec des galères venant de quartiers.
Comment tu pourrais définir, toi, ton travail au quotidien ? Quand t'arrives à Proxité, qu'est-ce que tu fais ?
Alors, c'est assez varié, assez divers. Moi, mon cœur de métier, c'est l'identification de jeunes qui auraient des besoins. L'identification de mentors qui souhaiteraient s'engager, de bénévoles qui souhaiteraient s'engager. Et une fois que j'ai identifié ces personnes, c'est de pouvoir créer du lien entre deux personnes. Voilà, le but c'est de pouvoir faire une proposition, leur proposer un espace de rencontre, qu'ils et elles puissent échanger, et à la fin, s'ils nous disent ok, on se lance dans l'aventure, let's go, et bon, on commence.
Et comment t'arrives à déterminer les besoins d'un jeune ?
Alors ça va dépendre du niveau scolaire, de la tranche d'âge, et également de l'étape de vie où il ou elle se trouve. Mais globalement, je me base surtout sur du déclaratif. Je laisse d'abord le jeune vraiment se présenter de manière large, et après je viens lui poser des questions pour approfondir. Et vraiment petit à petit, en fait, fonctionner un peu sous un système d'entonnoir, partir du large pour arriver à préciser petit à petit. Lorsqu'on fait le temps de rencontre, c'est aussi le moment où on va pouvoir aussi définir ses objectifs. Non pas quelque chose de rigide que le binôme sera obligé de suivre, mais vraiment l'enjeu est de pouvoir plutôt leur donner un horizon. Le but, c'est vraiment de pouvoir aussi les questionner et de leur apporter en fait du concret aussi sur des idées dans lesquelles ils pourraient se projeter, mais en même temps sans savoir véritablement comment y aller. Pour nous, le but, c'est pas du tout de faire de l'aide au devoir, si j'ose dire. C'est vraiment de pouvoir retravailler sur la méthodologie, la confiance en soi, l'accompagnement vers l'autonomisation sur les sujets liés à la scolarité.
Et justement, par rapport à ce que les jeunes te font remonter, qu'est-ce que tu identifierais comme principale difficulté qui remonte ?
Là-dessus, ça va vraiment dépendre en fait de la typologie socio-familiale, si j'ose dire. Nous, Proxité, on accompagne des jeunes allant de la 6e jusqu'à à peu près 26 ans. Et on accompagne surtout des jeunes vraiment de milieux complètement divers. On va accompagner du coup des jeunes de quartier, donc de la réalité liées à des environnements socio-économiques qui peuvent être plus ou moins stables, à de la précarité, voire même à un environnement parfois unsafe, de fractures de mobilité, de fractures numériques, d'illettrisme, voire même parfois d'analphabétisme, avec aussi tu vois, des familles qui sont peu francophones, voire allophones. Allophones, du coup, c'est que la langue maternelle n'est pas le français. On accompagne également des jeunes qui ont été confiés à l'aide sociale à l'enfance. Donc là-dessus, on va avoir d'autres typologies de difficultés. On va avoir déjà, chez les plus jeunes, une carence affective. Et certaines essaient de retrouver en fait une forme de lien affectif au travers de leur accompagnement en mentorat. Nous, c'est pas notre enjeu parce qu'on n'est pas du tout des spécialistes sur le lien affectif. Donc on essaye aussi de mettre des limites en fait dans ce que on va attendre des mentors sur ce sujet, voire même parfois mettre des limites aussi auprès des jeunes en leur disant en fait là nous on n'est pas du tout sur ce sujet-là dans Proxité. On accompagne aussi des jeunes plus spécifiques dans l'aide sociale à l'enfance qu'on appelle des MNA, c'est des mineurs non accompagnés. Donc c'est des jeunes néo-arrivants sur le territoire dont la minorité a été reconnue et qui sont confiés à l'ASE afin de pouvoir, dans le cours de leur minorité jusqu'à leur majorité, pouvoir structurer une insertion dans la société française, donc scolarité, diplôme, métier, et pour qu'à l'arrivée à leur majorité, ils et elles puissent pouvoir prétendre à un titre de séjour, une régularisation et un peu plus loin, je pense, une nationalisation. Et après, vraiment, on travaille aussi avec tous vos jeunes, en fait, qui nous sollicitent en disant, bah voilà, moi j'ai besoin d'un coup de main dans mon parcours. Je suis bon à l'école, bonne à l'école, ça y a pas de souci. Mais c'est juste que je me sens pas légitime. Je me sens pas à l'aise de le faire seul. Généralement, c'est des phénomènes d'autocensure. Notamment sur les publics jeunes filles, où là, on va constater, en fait, un phénomène d'autocensure, déjà d'une part, mais également d'une perte de légitimité, en fait, due au rapport genré et au patriarcat de notre société, je pense. Mais ça, c'est ma clé de lecture. Et le but, c'est aussi de pouvoir les rassurer, de leur dire, en fait, structurellement, il y a des entraves. On peut pas nier que structurellement, il y a des entraves. Mais le but, c'est comment est-ce qu'on essaie d'aller un peu plus loin? Comment est-ce qu'on essaie de passer ces barrières, même s'il faut bosser deux fois plus? Bah là, le but, c'est qu'on bosse deux fois plus, mais à deux ou à trois. Mais pour toi. Il y a aussi un moment très fort, en fait, tu vois, dans le parcours d'un jeune, c'est l'articulation troisième seconde. Parce qu'en fait, t'as une grosse déperdition de l'engagement dans la scolarité de certains jeunes. Et notamment pourquoi? Parce qu'en fait, t'as un changement de culture. Et le fait de passer, notamment par Proxité, ils sont déjà sensibilisés, justement, à la découverte de l'autre, à la mixité sociale, ethnique, etc., genre, et tout ce que tu veux. Et donc, en fait, ça les a déjà outillés, en fait, sur bah, comment je crée du lien avec des gens qui ne viennent pas de mon milieu, qui ne sont pas de ma culture, etc., etc.
Quelle piste tu pourrais donner à des jeunes qui justement se disent « je suis perdu, je sais pas quoi faire, c'est encore trop tôt pour moi ».
Ce qui semble nous être remonté de la part des jeunes, c'est que ils ont déjà en fait des espaces d'échange avec leurs profs en 4e, 3e sur l'insertion professionnelle, sur la construction de leur projet pro. Il y a des liens aussi école-entreprise pour commencer en fait vraiment à sensibiliser au plus tôt les jeunes sur l'orientation. Et je pense que il y a une vraie dynamique de l'éducation nationale de commencer à faire germer des idées de projets pro dans la tête des jeunes au plus tôt. Parce qu'en fait, après, ça s'accélère très très vite. Dans le sens où, dès la fin du premier semestre de seconde, tu vas devoir déjà choisir les spécialités. Sur le côté pratique, il y a une sélection à la terminale, avec une plateforme qui s'appelle Parcoursup, pour pouvoir prétendre aux filières post-bac. Et pour pouvoir optimiser ton taux de pourcentage de chances de pouvoir être sélectionné par la filière que tu vas viser, il faut que tes spécialités soit cohérente par rapport à la filière que tu vises. C'est pour ça aussi que nous, du coup, du côté Proxité, quand on travaille avec les jeunes en troisième et en seconde, on commence déjà à leur parler de tout ça. Le but, c'est pas de leur mettre la pression, mais c'est quand même aussi qu'ils aient une vision éclairée de ce qu'ils vont faire.
Sur le site de Proxité, ils parlent notamment de décrochage scolaire, ils parlent de difficultés scolaires. Et du coup, je voulais savoir si toi, t'as pu constater un vrai lien entre, par exemple, un jeune qui c'est pas vraiment ce qu'il veut faire, donc c'est-à-dire peut-être qu'il est pas au bon endroit, et donc les notes suivent pas derrière.
Sur les jeunes que moi je peux accompagner sur l'île, j'en ai, effectivement. Parfois certains jeunes nous disent, bon, en fait moi les cours, non, moi ça me parle pas. Et donc du coup, comme ça les motive pas, bah ils travaillent pas. Et vu que tu travailles pas, bah du coup t'as des mauvaises notes, et vu que t'as des mauvaises notes, ça te démotive. Et après du coup c'est une espèce de cercle vicieux. Donc on en a des jeunes comme ça. C'est pas non plus une grosse proportion, mais on en a. Et donc là-dessus, effectivement, on accompagne également des publics décrocheurs, ou alors pré-décrocheurs. Les publics pré-décrocheurs, ce sont des jeunes, en fait, qui ont des résultats scolaires, en termes de notes, qui ne sont pas au niveau des attendus du niveau de classe, qui vont commencer à avoir aussi soit une forme de désengagement vis-à-vis de l'assiduité et de la présence en cours, donc des absences injustifiées, des retards injustifiés, ou alors avoir un côté très passif. Donc en fait, là, c'est plutôt en fait, la pente glissante en fait, qui mène vers, effectivement, le décrochage. Et après, le décrochage, c'est vraiment le moment où, en gros, là, les jeunes ne fréquentent plus, quasiment plus, du moins, l'établissement. Et donc, là, c'est le moment, en fait, ils disparaissent un peu des radars, en fait, de l'éducation nationale. Et également, sur les pré-décrocheurs, bah, en fait, nous, on va plutôt retravailler le sens. On va venir les questionner sur, bah, c'est quoi le sens de l'école, par exemple. Est-ce que ça a du sens pour toi? Oui, non. Est-ce que tu sais pourquoi t'apprends Pythagore ou Thalès, par exemple? Mais du coup, comme, malheureusement, les enseignants n'ont pas forcément toujours le temps de pouvoir faire ça, parce qu'ils ont des programmes quand même assez denses, également des classes assez nombreuses, bah, ils n'ont pas l'occasion en fait, de pouvoir faire du cas par cas, de pouvoir vraiment redonner du sens sur ce qu'ils sont en train d'expliquer toutes les 5 minutes. Là où nous, justement, notre action, elle est complémentaire de l'action de l'éducation nationale, c'est qu'on peut individualiser les sujets en fait, qui auraient été transmis par l'enseignant.
Et une dernière question.
Ouais.
Pour peut-être des jeunes qui se reconnaissent en difficulté, qui savent qu'ils ont besoin d'aide, mais qui n'ont pas forcément envie de s'engager dans une association de mentorat ou quelque chose qui ressemble à Proxité, est-ce que tu aurais peut-être des pistes pour les diriger vers d'autres personnes?
Ben, tout dépend aussi de la typologie. Est-ce que c'est des jeunes en scolarité? Est-ce que c'est des jeunes qui sont déjà plutôt sur la construction du projet pro? Mais pour des jeunes en scolarité, déjà, je vous dirais, allez voir vos enseignants. C'est la première porte d'entrée. Il y a peut-être le conseiller ou la conseillère d'orientation qui peut vous aider. Tu peux aller voir ton PSYEN. Tu peux peut-être aller faire des portes ouvertes d'établissement, si c'est une question d'orientation. Tu peux faire le salon de l'étudiant, peut-être, qui a lieu une fois par an. Tu peux aller questionner d'autres étudiants qui sont d'un niveau supérieur à toi. Il y a également les centres sociaux et les missions locales, les pôles emploi, enfin, les MNS, la Maison Nord Solidarité, je crois. Ou les MNE, les Maisons Nord Emploi. Les conseillers missions locales, eux pourront aussi vous dire ce qui existe. Et si à un moment, effectivement, un accompagnement un peu plus pérenne ou un peu plus flash en fonction des besoins fait sens, ben, y a plein d'associations effectivement de mentorat ou d'insertion pro ou de sensibilisation au monde du travail ou de questionnement autour de l'orientation. Et même si vous ne voulez pas forcément nous appeler ou nous envoyer un mail, ben, allez voir déjà les sites web.
Merci Ali d'avoir accepté cette interview. Si vous êtes intéressé par l'association Proxité, en effet, n'hésitez pas à consulter leur site. www.proxité.com Proxité, P-R-O-X-I-T-E. Et si vous pensez que vous ferez un bon mentor, vous pouvez également faire un tour sur leur site, ça ne vous coûtera rien de plus.
Ok, ok, merci beaucoup Lucie pour cette énorme interview. Et on va... Vraiment, je ne sais pas lire mes notes, quoi. Pardon, c'est encore l'heure d'une interlude musicale et on va s'écouter « Si tu m'aimes demain » de Iliona. Encore une chanson d'amour qui paraît très ancienne, mais qui date de l'année dernière. Enfin bref, on s'écoute ça.
Des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, dans incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux. Dommage, j'avais pas mieux. Devoir se dire adieu. On tournait par eux. S'en trouvait comme de vieux. Faut que si tu m'aimes, pas seulement si.
Super musique, on garde la ligne directrice de l'amour en tout cas. Et on passe maintenant au billet d'humeur d'Eva, qui va vous parler des chiens d'assistance mis en place dans les gendarmeries pour soutenir les mineurs victimes de violences et les aider à témoigner.
Préparez-vous à en voir de toutes les couleurs, c'est le billet d'humeur.
Bonjour chers auditeurs et chères auditrices. Pour le billet d'humeur de ce matin, je dois bien vous l'avouer, j'étais un petit peu inquiète. Les informations de ces derniers jours n'ont évoqué chez moi que tristesse et lassitude. Un matin, j'ouvre mon téléphone et je vois « Attentat près de la Tour Eiffel ». Quelques jours plus tard, un autre article sur « Un adolescent de 15 ans recherché après la découverte de deux corps calcinés ». Un autre sur la mort d'un supporter du FC Nantes. Bref, que des mauvaises nouvelles. Et ce que j'ai trouvé le plus déroutant, c'est que je n'en étais même pas choquée, simplement lasse et attristée de toute cette violence. J'ai donc cherché une information différente et je suis tombée sur une vidéo de Brut qui a dessiné un large sourire sur mes lèvres. La vidéo parle de Rumba, une chienne qui s'est installée depuis un an à la gendarmerie de Vannes pour accompagner les mineurs victimes de violences intrafamiliales ou sexuelles lors de leur audition. Cette démarche est la première en France et se trouve être un succès. La présence du chien permet aux enfants de parler plus facilement durant les auditions, voire même de surmonter les blocages. En voyant la tête de la chienne habillée avec un petit gilet bleu, j'ai littéralement fondu. Et je trouve ça tellement ingénieux. Je n'ose même pas imaginer ce que c'est que d'être un enfant et de devoir aller à la gendarmerie pour parler seul face à un adulte qui m'est inconnu dans un lieu totalement étranger pour raconter des faits de violence grave. Ça doit être tellement effrayant et oppressant, d'où l'ingéniosité de ce dispositif. C'est bien connu, les animaux attirent irrémédiablement l'attention des enfants, et même si à quelques exceptions près certains ont peur des chiens, la plupart les adorent. D'ailleurs, le chien n'est-il pas le meilleur ami de l'homme ? C'est simple, cette simple petite vidéo m'a donné un petit peu d'espoir, parce que malgré ce monde dans lequel nous vivons, où vraisemblablement la violence défie constamment les limites du pensable, d'un autre côté, il y a des progrès qui sont faits aussi. Comme quoi, il vaut mieux voir le verre à moitié plein. Ce dispositif de chien d'assistance avait déjà été mis en place dans les tribunaux, les chiens étant un soutien pour les victimes. Ils sont actuellement au nombre de 21 en France et l'objectif est d'en déployer 20 par an. Je trouve cette nouvelle excellente et très encourageante pour la suite. Plus il y aura de chiens qui seront déployés pour venir en aide aux mineurs, plus ces derniers auront de chances de réussir à témoigner, voire même peut-être que certains n'auront plus peur de simplement venir témoigner. C'est selon moi une avancée qui mérite d'être soulignée et encouragée et c'est pour cela que je tenais à vous la partager ce matin. Merci beaucoup de m'avoir écouté, je vous souhaite une excellente matinée.
Et bah super billet d'humeur sur une info plutôt positive, plutôt même extrêmement positive, ça fait plaisir. Voilà le flash info, la revue de presse, faut vous prendre des notes. Hein. Enfin bref, on se rapproche de la fin de l'émission. Chers auditeurs et auditrices de Radio Campus, il reste encore l'agenda culturel de Emma Laurie, qui, je le rappelle, a beaucoup trop de rôle dans cette matinale. Enfin bref, c'est parti pour l'agenda culturel et social.
Bonjour à tous et à toutes. Noël s'approche à grands pas et c'est pourquoi on vous a concocté un petit planning de préparation à l'ambiance de ces jours festifs à venir. Tout d'abord, comment passer à côté du marché de Noël lillois au programme du 22 novembre 2023 au 31 décembre. Vous retrouverez de nombreux exposants, animations ou encore illuminations et concerts à Lille. Ce vendredi, on vous conseille de vous y rendre pour écouter le concert Le Piano le Triporteur. Ils sont déjà venus en 2022 et vous ont impressionné. Juchés sur un étonnant triporteur, le pianiste et son piano sont mobiles. Ils accompagnent les tribulations du jongleur et rythment sa performance. Tout en interactivité, l'ambiance qui se dégage du concept est unique. Toujours ce vendredi 8 décembre à 21h, aura lieu un concert à la bougie. Vous y retrouverez l'univers de Coldplay repris au piano au 224 rue Pierre-Mauroy à Lille. Et aujourd'hui, rendez-vous au cinéma pour voir le film Migration, sorti tout fraîchement ce matin en salle. Cette comédie se regarde en famille, destinée pour un public plutôt jeune. Le studio Illumination nous en fait voir de toutes les couleurs avec le destin de la famille Colvert qui se lance un périple à vol d'oiseau vers la Jamaïque. Et pour finir sur une note joyeuse, on vous propose de vous rendre au théâtre de la Verrière pour voir le spectacle La Joie qui a lieu du 7 au 9 décembre. La Joie est le monologue d'un homme pas franchement joyeux, voire tout à fait déprimé, qui raconte son projet de se convertir à la joie. Un rendez-vous qui garantit de l'humour et de la philosophie.
Ok, j'espère que vous avez pris des notes. Et avant de partir, on s'écoute encore une musique, un son de Frank Ocean, Night, qui correspond bien à l'ambiance actuelle puisqu'il fait encore nuit.
Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't even got nobody being honest with you. Free till I evaporated. My whole body see-through. Transportation handmade. And I know it better than most people. I don't trust them anyways. You can't break the law with them. Get some good shit, have a calm night. Shooters killing left and right. Working through your worst night. If I get my money right, you know I won't need you. And I tell you, I hope the sack is full up. I'm fucking, oh, I'm fucked up. Spend it when I get that. I ain't tryna keep you. Can't keep up a conversation. Can't nobody read you. Why your eyes well up? Did you call me from a seance? You were from my past life. Hope you're doing well, bro. I've been out here head first. Always like the head first. Signal coming in and out. Hope you're doing well, bro. Everybody needs you. Everybody needs you. Ooh, nani, nani. This feel like a quaalude. No sleep in my body. Ain't no bitch in my body. New beginnings. New beginnings. Wake up, ah, the sun's going down. Time to start your day, bruh. Can't keep being late on. Know you need the money. Gon' survive every night, shit. Every day, shit. Dropping baby off at home before my night, shit. You know I can't hear none of them. Spend the night, shit. Kumbaya, shit. Wanna see Nirvana, but don't wanna die, yeah. Wanna feel it, none of them. You come by, fuck with me after my shit. Know them boys wanna see me broke down, shit. Bummed out and shit. Stressed out and shit. That's every day, shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. My everyday shit, every night shit, everyday shit.
Every night fucks every day up. Every day patches the night up. Oh God, you should match it, it's that KO. No one lighters till I fuck my 28th up. 1998, my family had the Acura. Oh, the legend. Cap at least six discs and a changer. Back on Boswell and Percy had it active. Couple bishops in the city building mansions. Oh, the reverend. Preaching self-made millionaire status. When we could only eat at Shoney's on occasion. After Trina hit, I had to transfer campus. Your apartment I didn't use since where I waited. Staying with you when I didn't have an address.
Fucking on you when I didn't own a mattress. Working on a way to make it out of Texas. Every night. Dropping baby, I've been hungry for my night. Yeah. I seen her run up, I wanna die, yeah. Wanna feel it, none of that, could you come by? Fuck with me at the mosh, if you know them boys wanna see me punk down, see me punk dodge, trip status, every day, shit. Shut the fuck up, I don't want your conversation. Rolling marijuana, that's a cheap vacation. Every day, shit, every night, shit. Every day, shit. Every day, shit. Every day, shit. Every day, shit. Every night, shit.
Et voilà, il est 7h58, c'est désormais l'heure de se quitter, les auditeurs et auditrices de Radio Campus. Voilà, je trouve que c'était une très bonne matinale, j'ai pris beaucoup de plaisir à animer l'émission qui était composée de sujets excellents. Voilà, je rappelle Angèle de Tôle Terrasse au Flash Info, Abigail à la Revue de Presse, Lison Fleury au micro-trottoir, Lucie pour l'interview, Eva au billet d'humeur, Lisa Deschaux à la régie et Emma à la réalisation, reportage, agenda culturel. Extrêmement polyvalente, je le rappelle. Et on va, enfin, nous, on se quitte, mais on va partir quand même sur une petite musique. Voilà, Georgia Smith, Blue Lights. On va s'écouter ça. Voilà, on va vous laisser sur ça. Je rappelle que l'émission est disponible en replay sur Radio Campus et on se retrouve demain à la même heure. Salut à tous.
Round your city, round the clock. Everybody needs you. No, you can't make everybody equal. Although you got Buku family, you don't.